RFI 5h à Paris, il est 23h à Washington. L'heure de vous retrouver pour un nouveau journal. Martin Guez, bonjour Martin.
Bonjour Nemo en Peace et à tout à l'heure et à la une de ce mercredi 5 mars. Le Monde, selon Trump, version 2025. Le président américain vient de terminer son discours, son premier discours face au Congrès. Son premier en tout cas depuis son retour à la Maison Blanche devant une assemblée mi-survoltée, mi-médusée. Donald Trump a tiré à boulets rouges sur les progressistes et les wokistes, tout en réaffirmant ses projets d'annexer le Groenland ou de reprendre le contrôle du canal de Panama. Le milliardaire républicain qui a aussi reconnu que les droits de douane pourraient provoquer quelques perturbations au lendemain de la guerre commerciale déclarée par les États-Unis à leurs voisins mexicains et canadiens, le Canada, qui craint pour sa survie, alarme le Premier ministre Justin Trudeau. Au Proche-Orient, un contre-plan pour Gaza adopté par les pays de la Ligue arabe à hauteur de 53 milliards de dollars, plan qui exclut catégoriquement tout déplacement de population. Et puis après la Grande-Bretagne et le Canada, autour de l'Allemagne de prendre des sanctions contre le Rwanda. Berlin pointe le soutien de Kigali au M23 dans l'est de la RDC. Enfin, on terminera par du football. Les huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions, Lille qui tient le choc à Dortmund et le Real qui remporte le sien face à l'Atlético. L'Amérique est de retour, a exulté Donald Trump pour son premier discours face au Congrès. Depuis son retour à la Maison Blanche, le milliardaire républicain de 78 ans qui a tiré à boulets rouges sur l'administration de son prédécesseur Joe Biden et qui a fait applaudir Elon Musk, devenu son bras droit en charge des coupes budgétaires. Devant une assemblée très divisée entre démocrates atterrés et républicains survoltés, le président américain a aussi chargé les woke, terme péjoratif contre les militants progressistes aux États-Unis.
Nous avons mis fin à la tyrannie des politiques dites de diversité, d'équité et d'inclusion dans l'ensemble du gouvernement fédéral, dans le secteur privé et dans notre armée. Et notre pays ne sera plus un pays woke. Que vous soyez médecin, comptable, avocat ou contrôleur aérien, nous pensons que vous devez être embauché et promu en fonction de vos compétences et de vos aptitudes, et non de votre race ou de votre sexe, ce qui est très important. Et j'ai signé un décret qui acte que désormais, il n'existe que deux genres pour le gouvernement américain, le genre masculin et le genre féminin.
Donald Trump qui a aussi promis de faire la guerre aux cartels et qui a affirmé que le Groenland et le canal de Panama seront bientôt américains. Il a aussi affirmé que Volodymyr Zelensky serait prêt à négocier avec la Russie et qu'il serait prêt à signer un accord sur les minerais à tout moment. Discours marqué également par l'expulsion d'un élu démocrate qui a protesté pendant le discours de Donald Trump dans une ambiance assez tendue. Et puis le téléphone qui a sonné toute la journée à Washington, c'est ce que laisse entendre le ministre du Commerce, Howard Lutnick, qui a longuement échangé avec le Mexique et le Canada alors que Donald Trump a relancé la guerre commerciale avec ses voisins en décrétant des droits de douane de 25%. Et si le Canada a pris des mesures de rétorsion, les régions frontalières avec les États-Unis pourraient grandement souffrir de cette guerre tarifaire. C'est ce que nous dit John Daniolo. Il est président d'un syndicat de travailleurs de l'usine Ford de Windsor à la frontière américaine.
Ces mesures vont dévaster notre communauté ici à Windsor parce que nous sommes là depuis longtemps. Ford est basé ici depuis maintenant plus d'un siècle. Nous avons enduré beaucoup de moments difficiles, mais jamais rien de tel. Nos travailleurs vont être touchés. Ils seront licenciés dans un bref délai. Et je ne sais pas encore à quelle vitesse cela va se passer. Par ailleurs, nous sommes séparés seulement par une rivière entre Windsor et les États-Unis. Les mêmes pièces automobiles traversent la frontière 5 à 6 fois par jour avant l'assemblage du véhicule. Je ne sais même pas vraiment comment c'est possible, pour être honnête, de séparer un processus de fabrication si intégré tout en maintenant l'entreprise prospère. C'est impossible, selon moi.
Des propos recueillis au micro RFI de Pénélope Lemogouen, le Premier ministre canadien Justin Trudeau, qui a qualifié de stupide l'offensive américaine sur les droits de douane et qui a évoqué une volonté d'annexion de son pays par son voisin. La Chine, elle aussi touchée par cette guerre douanière et qui a également annoncé des mesures de rétorsion à l'occasion de la session annuelle de l'Assemblée nationale populaire. Le pays qui a par ailleurs annoncé viser une croissance d'environ 5% pour 2025, tout en augmentant son déficit budgétaire à 4%. Le budget de défense chinois est lui à nouveau revu à la hausse et augmentera de 7,2% cette année, comme en 2024. Un plan de reconstruction pour Gaza et le retour à terme de l'autorité palestinienne. Voilà le projet qu'ont adopté les dirigeants des pays de la Ligue arabe, réunis au Caire, en Égypte, dénonçant les odieuses tentatives de déplacement de la population gazaoui. Gaza, où l'aide humanitaire n'arrive plus depuis ce dimanche. L'accord de trêve entre Israël et le Hamas est au point mort. Une aide humanitaire qui serait devenue la première source de revenus du mouvement islamiste palestinien, selon Gideon Sar, le ministre israélien des Affaires étrangères. Accusation utilisée pour justifier le blocage israélien de l'entrée de l'aide à Gaza. L'ONU dénonce une décision qui menace tout simplement la vie des Gazaouis, Muriel Paradon.
Après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu le 19 janvier, les Gazaouis ont pu enfin souffler avec l'entrée massive de l'aide humanitaire. L'UNRWA et le Programme alimentaire mondial ont distribué des rations de nourriture pour un mois, affirme Antoine Renard, directeur du PAM pour la Palestine. Mais depuis dimanche et le blocus imposé par Israël, la situation redevient préoccupante.
Vous avez 90% de la population dans Gaza qui sont en insécurité alimentaire sévère. Donc le risque que vous avez, c'est au plus la fermeture des différents points d'entrée durera, au plus nous serons à risque par rapport justement au fait que des denrées de base pourraient venir à manquer.
Le gouvernement israélien affirme que l'aide humanitaire est détournée par le Hamas. Faux, rétorque Antoine Renard du PAM.
Je peux vous confirmer que l'assistance que nous donnons aux populations arrive aux populations. C'est le cas avec tout ce qui est les différents repas chauds. C'est le cas avec les boulangeries. Vous avez directement maintenant 25 boulangeries qui fonctionnent, même parfois avec 3 shifts. Au fait, les gens peuvent et les populations de Gaza peuvent pour l'instant aller acheter du pain.
Mais avec le risque de pénurie, les Gazaouis font des stocks et les prix des denrées alimentaires ont à nouveau explosé dans le territoire palestinien.
Muriel Paradon du service international de RFI. Israël a par ailleurs exigé ce mardi une démilitarisation totale de la bande de Gaza pour passer à la deuxième phase de l'accord de trêve. Un non-sens, répond le Hamas. RFI, les 5h07 à Paris, 6h07 à Boutembo, au Nord Kivu, en proie à de violents combats dans la nuit de lundi à mardi. Deux factions de Wazalendo, miliciens pro-gouvernementaux, se sont affrontés. Des affrontements qui auraient fait 9 morts selon la société civile locale, 6 selon l'armée. Et puis selon l'ONU, plus de 400 000 personnes ont été expulsées de force par le M23 dans les deux Kivu. Et c'est dans ce contexte que l'Allemagne a annoncé suspendre ses nouvelles aides au développement au Rwanda. Soutien actif du M23 dans l'est de la RDC, après le Royaume-Uni et le Canada. Voilà donc l'Allemagne qui sévit aussi, Pascal Thibault.
Nous allons suspendre de nouveaux engagements financiers ainsi que des rencontres de haut niveau avec Kigali et revoir la coopération existante avec le Rwanda. Le ministère de la coopération allemand a annoncé sa décision hier dans un communiqué. Berlin condamne l'offensive du groupe M23 et dénonce une violation de l'intégrité territoriale et de la souveraineté de la RDC. Berlin a informé au préalable Kigali, qui bénéficie d'une aide annuelle de 50 millions d'euros par an de Berlin pour des projets liés au développement économique, à l'énergie, à la protection du climat ou à la production de vaccins. Berlin a, dans ses échanges avec Kigali, demandé à nouveau le retrait des forces armées rwandaises de la RDC et l'arrêt du soutien au M23. Fin janvier, Berlin avait décidé d'annuler des consultations gouvernementales avec le Rwanda. Pascal Thibault, Berlin RFI.
Par ailleurs, la tournée des églises catholiques et protestantes de RDC continue. Des représentants congolais reçus hier à Kampala par le président ougandais Yoweri Museveni, visant à favoriser le dialogue et la désescalade dans la région des Grands Lacs. L'actualité en France, à présent, est l'affaire Notre-Dame de Bétarame, du nom de cet établissement scolaire catholique du sud-ouest du pays, au cœur d'un immense scandale d'abus sexuels et de violences physiques. 150 plaintes déposées par d'anciens élèves qui dénoncent des actes commis par des religieux et par des surveillants des années 1950 jusqu'aux années 2000. Hier, pour la première fois, la congrégation religieuse à la tête de l'établissement a reconnu sa responsabilité et a annoncé des indemnisations pour les victimes de violences sexuelles. Mais les autres violences ne sont pas reconnues, au grand regret des plaignants. Baptiste Coulon.
Aucune violence sexuelle, mais des violences physiques et psychologiques dès les premiers jours, se souvient Arnaud. Il entre à Notre-Dame de Bétarame en septembre 1996.
Moi, je suis tapé sans aucun motif. Des énormes baffes dans la tronche, des coups avec le poing fermé sur le crâne. J'ai jamais cédé. Ils m'avaient clairement dit qu'ils allaient me faire plier comme les autres.
La congrégation sort du silence. C'est un premier pas pour cet ancien élève, mais insuffisant, car les violences physiques sont pour le moment exclues de toute indemnisation.
Ça n'a pas exister pour eux. Je ne suis pas reconnu.
Mais hors de question de subir une double peine, explique ce quarantenaire.
Nous, on ne s'arrêtera pas là. Ils doivent reconnaître aussi ces violences physiques et réparer dans tous les moyens qui sont déjà à leur disposition.
Reconnaître ces violences de manière concrète, par exemple en subvenant aux frais de psychothérapie, ils sont pour le moment entièrement à la charge d'Arnaud.
Ça représente 1500 à 2000 euros par an. Moi, je gagne à peine le SMIC. Je pense que pour l'église, vu le patrimoine immobilier, il pourrait faire un effort.
Pour les victimes, aucune violence ne doit être épargnée. Elle constitue un ensemble indissociable dont les conséquences psychologiques sont toujours visibles, même un demi-siècle après les faits.
Baptiste Coulon du service France de RFI, toujours dans l'Hexagone, saisie record dans le port de Dunkerque, dans le nord du pays. 10 tonnes de cocaïne dissimulées dans un conteneur, cargaison d'une valeur estimée à 300 millions d'euros. Le trafic de drogue en Europe, on y revient dans un instant, juste après le journal. On va terminer sur les terrains de football, avec le début des huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions. Dans le choc du soir, le Real est sorti vainqueur du derby madrilène, victoire 2-1 grâce à Rodrigo et Brahim Diaz. Le carton de la soirée est à mettre au crédit d'Arsenal, les canonniers qui ont bombardé Eindhoven, succès 7 buts à 1 sur la pelouse des Néerlandais. Et puis autre victoire anglaise à l'extérieur, celle d'Aston Villa, 3 buts à 1 à Bruges. Enfin pas de vainqueur entre le Borussia Dortmund et Lille, le LOSC qui a résisté face au mur jaune et qui a ramené un match nul un partout, qui a presque le goût d'une victoire pour les fans ayant fait le déplacement, Boubacar Diarra.
Le match terminé, les cœurs lillois résonnent encore sous la tribune nord de l'enceinte de Dortmund, le signe d'une mission réussie pour les fans des Dogs, comme Yves à Courtevoix.
C'est comme une victoire. On a fait match nul en Allemagne, c'est une victoire. C'est une victoire pour notre LOSC.
Dans un parquage du plus bel effet avec leurs tuniques rouges et blanches, ces amateurs du LOSC se sont inspirés de leurs joueurs sur le terrain pour faire jeu égal avec le mythique mur jaune.
Par moments, on l'entendait que nous. Avant la résultat, je retiendrai ça, c'est que quand on chantait, on a réussi à éteindre ce mur jaune qui pourtant a une réputation d'être la meilleure ambiance d'Europe, quoi. Et Lille a réussi à éteindre la meilleure ambiance d'Europe.
Passé par Dortmund avant de jouer pour Lille, le défenseur Thomas Meunier se veut admiratif.
On les a très bien entendus et c'est bien, ils étaient tous en blanc, etc. Ça se démarquait, c'était sympa. Les déplacements européens, c'est aussi spécial pour les supporters que pour les joueurs. Aller à Liverpool, jouer le Real, etc. C'est magique pour tout le monde. Et j'espère qu'ils seront au rendez-vous mercredi, parce qu'on aura bien besoin d'eux.
Ils sont à coup sûr prêts pour ce rendez-vous fixé par Meunier, et même déjà pour celui d'un encore hypothétique quart de finale.
On va aller à Barcelone, à Barcelone.
Voilà, Boubacar Diarra, envoyé spécial de RFI à Dortmund, Barcelone justement, qui jouera ce soir sur la pelouse du Benfica Lisbonne pour son huitième de finale aller. Mais le choc de ce mercredi, ce sera bien sûr PSG-Liverpool. RFI sera sur place. Coup d'envoi à 20h, temps universel. Une rencontre à retrouver en fil rouge dans Radio Foot International. RFI, il est 5h12 ici à Paris. Restez bien avec nous, l'info continue.
RFI, toute l'actualité.
Martin Guez.
Et à suivre dans le prochain quart d'heure, notre focus sur la guerre des gangs qui secoue le vieux continent, à Stockholm comme à Bruxelles. De très jeunes hommes sont mêlés au trafic de drogue et aux fusillades. De véritables enfants soldats, nous dirons nos correspondants en Suède et en Belgique. Loin des règlements de compte, nous irons ensuite au cinéma pour le système Victoria, sorti hier dans les salles françaises, réalisé par Sylvain Descloux, qui sera notre invité. Enfin, nous rejoindrons Caroline Paré et toute l'équipe de Priorité Santé au Sénégal pour une semaine délocalisée en Casamance, et nous terminerons en musique au Togo, mais avant l'Afrique de l'Ouest, cap sur l'Europe du Nord. Et gros plan ce matin donc sur les guerres des gangs sur le continent européen. Et si la Suède fait souvent figure de modèle de société en Europe, elle n'échappe pas pour autant aux crimes organisés et aux fusillades quasiment quotidiennes ces dernières années. Les règlements de compte s'enchaînent et touchent de très jeunes hommes. Le nombre de jeunes de moins de 15 ans soupçonnés de meurtre ou de tentative de meurtre a quasiment triplé dans le pays. Des adolescents embrigadés de gré ou de force, un véritable phénomène d'enfants soldats contre lequel le gouvernement tente désespérément de lutter. Reportage à Stockholm d'Otilia Ferré.
On les appelle les enfants soldats. Ils n'ont parfois que 10 ou 11 ans et sont engagés comme tueurs à gages parce qu'ils n'ont pas atteint l'âge de responsabilité pénale fixé à 15 ans. Une aubaine pour les gangs qui vivent du narcotrafic. Victor, 25 ans, côtoyait certains d'entre eux à l'époque où il était membre d'un de ces gangs à Stockholm.
J'ai pas vraiment recruté, mais j'ai bien demandé à des adolescents de faire des trucs pour moi, comme détruire des preuves ou faire exploser des entrées de bâtiments. Mais le plus souvent, c'était des des ados qui venaient me voir d'eux-mêmes. La principale raison pour s'engager dans les gangs, c'est l'argent, bien sûr. L'argent et une forme de statut. Moi, je sais ce que je recherchais. C'était d'être respecté.
Des choses que Jonas Söderlund reconnaît dans les enfants qu'il rencontre dans les écoles, dans la rue ou les centres de jeunesse. Il est coordinateur local et son métier consiste à empêcher les enfants de se tourner vers la criminalité.
Aujourd'hui, je m'occupe des enfants dès l'âge de 6 ans. Ça peut commencer comme ça, par exemple. L'enfant se fait prêter un beau bonnet de marque par quelqu'un. Le lendemain, la personne dit qu'elle veut le récupérer et lui dit qu'il y a une tache dessus. Maintenant, tu me dois 300 euros. Ensuite, il y a des menaces, des pressions, et puis on est coincé.
Face à l'explosion de la criminalité chez les mineurs, le gouvernement de droite, soutenu par l'extrême droite, veut autoriser la police à surveiller secrètement les appels téléphoniques et les communications électroniques des jeunes de moins de 15 ans. Il est aussi question d'imposer, à titre préventif, le port du bracelet électronique à certains dès l'âge de 15 ans. Des mesures controversées qui questionnent les valeurs fondamentales des Suédois, comme Robert, père d'une adolescente de 15 ans, ou encore Germé.
C'est tragique qu'on en soit arrivé au point de réfléchir à ce genre de loi. De manière générale, je suis contre tout ce qui peut violer l'intégrité des personnes, surtout quand il s'agit de mineurs. Mais la criminalité s'est tellement répandue que je comprends le besoin. Il faut que les choses changent.
Les enfants qui risquent de se tourner vers la criminalité, ce dont ils ont besoin, c'est de l'aide. Leur mettre un bracelet électronique au pied tout en les laissant dans le même milieu, ça ne les empêchera pas d'avoir des activités criminelles.
Le gouvernement étudie actuellement la possibilité de rabaisser l'âge de responsabilité légale à 14 ans et de permettre à la police de supprimer immédiatement des contenus illégaux sur les réseaux sociaux. Les autorités passent clairement à l'offensive et tentent de conjuguer répression, surveillance et prévention au risque d'empiéter sur les libertés individuelles. Ottilia Ferré, Stockholm, RFI.
Un jour, une fusillade en Suède, mais aussi à Bruxelles, en Belgique. Règlement de compte sur fond de trafic de drogue. Plusieurs affrontements mortels entre gangs. On fait le point avec notre correspondant à Bruxelles, Jean-Jacques Herry. Bonjour Jean-Jacques.
Bonjour.
Ce qu'il faut préciser, en premier lieu, c'est que le phénomène en Belgique n'est pas nouveau.
Non, effectivement, il est même en constante augmentation depuis plusieurs années. L'an dernier, selon les chiffres de la police fédérale, il y a eu 92 fusillades liées au trafic de drogue à Bruxelles, pour un bilan de 9 morts et de 48 blessés. Mais depuis le début de l'année, il y en a déjà eu 11, dont 10 au mois de février, et quasiment quotidiennement pendant une semaine, avec 2 morts et plusieurs blessés. Astrid Descrouteur est criminologue et chercheuse à l'Institut flamand de la paix, un centre régional de recherche qui recense ces narco-fusillades.
Bruxelles est vraiment un point chaud en Europe, au même niveau que Marseille à peu près. Et après, vous avez Naples encore bien, bien au-dessus.
Au mois de février, la diffusion dans les médias d'images de vidéosurveillance tournées près d'une station de métro, connue pour être un important point de deal, ont beaucoup fait réagir. On y voyait deux hommes en capuche sortir du métro avec des armes de guerre et se mettre à tirer en pleine rue à 6h du matin sans se soucier des passants qui partaient travailler.
Et Jean-Jacques, comme en Suède, les auteurs de ces violences sont parfois des adolescents.
Et bien souvent, ce sont des hommes de plus en plus jeunes qui sont impliqués dans ces règlements de compte. C'est ce que décrit en tout cas Astrid Descrouteur.
Ces jeunes sont souvent très impulsifs. Ils ne se rendent pas compte des risques qu'il y a à tirer en pleine rue.
Avec des fusillades qui sont aussi plus fréquentes parce que tout simplement, trouver une arme aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile.
Les armes proviennent des stocks des guerres des années 90 en ex-Yougoslavie. Mais on observe aussi une hausse du nombre de pistolets d'alarme turcs. Normalement, on ne peut tirer qu'à blanc avec. Mais ils ont été modifiés, transformés en véritables armes à feu. Ils sont beaucoup moins chers, donc plus faciles d'accès pour ces jeunes.
Et Jean-Jacques, c'est à se demander, mais que fait la police ?
Eh bien, elle fait ce qu'elle peut, un peu comme à Marseille ou ailleurs. Elle a du mal à lutter contre ces groupes qui se battent pour garder des points de deal qui peuvent rapporter de 50 000 à 120 000 euros par jour, parfois, selon des chiffres cités par le journal La Libre Belgique. Il y a bien eu une hausse des contrôles et des patrouilles de police immédiatement après les faits, mais le nouveau procureur du roi à Bruxelles, récemment nommé, et qui affichait son intention de lutter contre ce fléau, déplore, comme les habitants, un manque de moyens structurels pour la police et pour la justice. De son côté, côté, le nouveau gouvernement fédéral belge souhaite fusionner les 6 zones de police de Bruxelles. Il estime que cela rendrait les forces de l'ordre plus efficaces, mais ni le procureur du roi, ni les bourgmestres des 19 communes de Bruxelles ne sont convaincus.
Merci Jean-Jacques Herry, correspondant de RFI à Bruxelles. On vous retrouve tout à l'heure avec Andréane Mellard dans RFI Matin. Rendez-vous dans 3 heures aux alentours de 7h20 dans Universel. Voilà désormais au cinéma pour voir Le Système Victoria. Initialement, c'est un livre d'Éric Reinhardt. C'est désormais un film de Sylvain Descloux, connu pour ses courts-métrages. Le réalisateur sort son 4e long format, un thriller amoureux qui tourne autour d'une tour en construction dans le quartier de la Défense, célèbre quartier d'affaires de l'Ouest parisien, Le Système Victoria. C'est encore Sylvain Descloux qui nous en parle le mieux. Il est ce matin l'invité d'Elisabeth Lequéré.
J'ai besoin que vous et votre équipe fassiez ce que vous vous êtes engagé à faire et accessoirement ce pourquoi je vous paye.
Sylvain Descloux, bonjour.
Bonjour.
Le personnage principal de votre film, David, est architecte et chef de chantier. Un jour, on lui demande de construire une tour immense à la Défense, dans des délais infernaux. Et donc, pour arriver à respecter ces délais, petit à petit, il va lâcher tous ses idéaux professionnels.
Moi, le désir que j'ai eu d'adapter le livre d'Éric, il est quasiment né d'une phrase.
D'Éric Reinhardt.
D'Éric Reinhardt, absolument. Il est quasiment né d'une phrase que dit le personnage principal David à un moment donné à Victoria, qui est vous les puissants, vous avez compris un truc génial, c'est que vous n'avez aucun problème à signer des objectifs dont vous savez qu'ils sont inatteignables, parce que vous savez très bien que quelqu'un les remplira, ces objectifs, au péril de sa vie, de sa santé, de sa famille. Et oui, ça définit bien ce que traverse et ce que subit David pendant le film, c'est-à-dire se mettre en tête de finir coûte que coûte cette tour de chantier. Ouais.
Et face à lui, il y a cette femme, Victoria.
La puissance du regard que porte Victoria sur David fait que celui-ci sort de lui-même. Et alors qu'on le prend au début du film dans un endroit un petit peu voilà, de solitude, d'échec même, et puis ce chantier qui est pharaonique et qu'il était sur le point d'abandonner, et ben, tout d'un coup, il va le mener à son terme.
Jeanne Balibar, vous la mettez en scène, Sylvain Descloux, avec des jeux de miroirs. Elle est toujours diffractée, coupée, anamorphosée. En fait, c'est une vraie femme fatale.
Je me suis rendu compte bien après coup, c'est-à-dire une fois le tournage bien commencé, qu'en fait, effectivement, elle apparaissait de 3 à 4 manières différentes et qu'on ne savait pas exactement où est-ce qu'elle était. Et ça racontait quelque chose que j'aime bien et que se pose, j'imagine, David, qui est « Mais qui est-elle et surtout où est-elle »
Et jusqu'où va-t-elle me mener ?»
Et jusqu'où va-t-elle me mener ?
Alors justement, ce sont deux personnages complètement différents en termes de caractère et de tempérament. Mais au-delà, c'est aussi la rencontre de deux mondes très différents. Un monde froid, un monde... Elle est DRH, elle est dans des univers très feutré, etc. Lui, il est dans les chantiers, quoi. Il est les mains dans le béton.
C'est ce qui m'a vraiment attiré également dans le livre d'Éric quand je l'ai lu, c'est la confrontation de ces deux mondes, comme vous venez de le dire. David, artiste un petit peu idéaliste, se mue en manager efficace, on va dire. Et puis Victoria, de femme fatale, froide, DRH, se mue en amoureuse Pygmalion. Donc la discussion a du bon.
Pourquoi est-ce que vous démissionnez si c'est pas indiscret?
Ça fait longtemps que j'ai l'impression de pas être à ma place.
Terminez-le ce chantier. Tout le monde saura que c'est grâce à vous.
Au cœur du film, Sylvain Descloux, il y a cette rencontre entre David et Victoria. Bon, on ne va pas déflorer ni raconter ce qu'est le système Victoria, mais bon, c'est quelque chose qui va conduire David très très loin. Les deux acteurs, Damien Bonnard et Jeanne Balibar, comment vous les avez castés ?
Damien Bonnard s'est imposé tout de suite dès la dernière ligne d'écriture du scénario terminé parce que il incarne pour moi assez évidemment et idéalement ce mélange de force, de bonhomie. Pour le personnage de Victoria, il fallait faire un petit pas de côté et trouver une actrice qui puisse incarner tout ça et tout en restant drôle, avec un charme évident. Et quand je dis ça, j'arrive très naturellement et très logiquement à Jeanne.
Et comment vous avez fait pour reconstituer le travail de chantier ? C'est quelque chose qu'on voit très très rarement au cinéma.
C'est vrai qu'il y a une fierté de construire ensemble ce bâtiment, à fabriquer ensemble quelque chose qui va rester.
Sylvain Descloux, merci beaucoup.
Merci à vous.
Sylvain Descloux, invité ce matin d'Elisabeth Lequéré pour Le Système Victoria, qui est sorti hier mercredi dans les salles françaises. À Paris, il est 5h23.
Le Conseil Santé avec Suno Assurance.
Et on quitte les salles obscures françaises pour la Casamance, le Sénégal, où se sont établies Caroline Paré et toute l'équipe de Priorité Santé.
L'équipe de Priorité Santé vous retrouve jusqu'à la fin de la semaine au Sénégal. Et pour la première de ces trois émissions spéciales en Casamance, nous allons parler des actions de la communauté pour améliorer la situation des enfants en situation de handicap avec l'équipe de l'association spéciale olympique Sénégal basée à Ziguinchor, avec l'équipe aussi de l'école El Hadji Omar Ndiaye, bienfaits du sport, suivi médical, école inclusive. Et parmi nos invités, l'un des médecins qui organise notamment des consultations destinées aux enfants en situation de handicap, le professeur Lamine Thiam, chef du service de pédiatrie à l'hôpital de la Paix, ici à Ziguinchor.
Lorsqu'on accueille ces familles-là et qu'ils nous montrent la souffrance qu'ils vivent parfois dans la famille, nous les médecins, on est un peu désarmés. Et on n'a pas beaucoup d'offres à les proposer. Et du coup, lorsque j'ai connu Spécial Olympique, ça m'a permis d'avoir beaucoup plus de nouvelles ressources à les proposer. Et donc, à travers ce sport-là, ça permet davantage de les maintenir dans la consultation et mieux, en tout cas, diagnostiquer toutes les pathologies, les comorbidités qu'ils présentent et mieux l'accompagner.
Santé inclusive, mettre en valeur les aptitudes de tous les enfants, vivre et apprendre ensemble. On vous donne rendez-vous, reportage, échange avec nos invités pour cette émission spéciale en Casamance à Ziguinchor, à retrouver avec Ophélie Lassène et Victor Hull à 9h10 et 1h10, temps universel, et à toute heure en podcast sur l'appli RFI Pure Radio.
Et voilà qui est bien noté. Bonne semaine en Casamance, Caroline Paré. On va terminer au Togo avec Peter Solo et Colico que nous chante Vodou Game. Colico de Vodou Game, choix ce matin des programmateurs musicaux de RFI. C'est la fin de cette demi-heure d'infos. Merci à Benoît VDB, à la réalisation Jeanne Bartoli, à la rédaction en chef. Dans quelques instants, c'est le retour de l'info africaine sur RFI.
tout à l'heure sur RFI, de vive voix, Pascal Paradou.
Grande finale du concours Eloquentia avec 4 candidats en lice. Entre plaidoirie, slam, poésie, rap ou encore stand-up, avec tous les styles seront permis pour cette 8e édition. Et à la clé, le titre de meilleur orateur ou oratrice de la francophonie, tout un art.
Écoutez De Vive Voix avec Pascal Paradou, du lundi au jeudi à 13h30 TU sur RFI. Tout à l'heure sur RFI,
c'est pas du vent.
Il ne suffira pas de décarboner une économie mondialisée avec un développement supposé durable grâce à des technologies incertaines. C'est bien plus complexe, mais aussi beaucoup plus enthousiasmant. Nos invités réfléchissent depuis des années aux solutions pour former efficacement sur ces enjeux écologiques qui conditionnent l'avenir de l'humanité.
C'est pas du vent. Anne-Cécile Bras.
Du mercredi au vendredi à partir de 14h10 TU sur RFI.